Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureux de recevoir au micro d'Un jour dans l'histoire François Kersaudy pour le deuxième volet de l'émission consacrée à la vie de Winston Spencer Churchill. En effet, l'année 2009, François, a été marquée par la réédition de votre biographie du personnage, une réédition importante chez Talendier, plus de 650 pages sur cette vie véritablement extraordinaire, nous devrions plutôt dire les vies de Churchill, tant elles furent nombreuses. Alors, au cours d'une première émission, nous avons abordé toute la période précédant la Deuxième Guerre mondiale, période riche en bien des points, puisqu'elle couvrait une large période de sa naissance en 1874 à l'année de la guerre, l'année 1939. Et au cours de cette deuxième émission, nous allons voir ce que j'ai appelé l'autre appel du 18 juin, celui donc de Churchill, un discours bien plus politique que celui du général de Gaulle, plus connu naturellement de ce côté-ci de la Manche. Alors quel fut le rôle de Churchill dans ce deuxième conflit mondial ? C'est ce que je vous propose de découvrir avec vous aujourd'hui. Alors, je me permets de vous citer, nous avions laissé nos auditeurs sur la lucidité de Churchill et votre chapitre à l'égard d'Hitler, et votre chapitre 10, intitulé Réincarnation, commence de la façon suivante. L'histoire, dit-on, ne se répète jamais. Pour Winston Spencer Churchill, pourtant, elle fera une exception, étrange destin en vérité que celui d'un homme brisé qui avait quitté l'amirauté, la mort dans l'âme par une sombre journée de mai 1915 et revient s'y installer un quart de siècle plus tard au même poste et dans des circonstances pratiquement identiques. Alors l'homme va immédiatement avoir des responsabilités, mais ça ne sera pas encore la responsabilité, celle qui l'obtiendra un an plus tard, en 1940.
Oui, c'est quelque chose évidemment d'assez unique dans l'histoire. Un homme qui a eu tant de responsabilités pendant la première, pendant une guerre mondiale et qui, 25 ans plus tard, revient exactement aux mêmes responsabilités en ayant sous ses ordres les fils de ceux qui avaient été ses collaborateurs 25 ans plus tôt. C'est tout à fait extraordinaire. Il est le seul à rester dans l'arène. Il se retrouve dans la même situation. L'ennemi est encore l'Allemagne. L'Angleterre est encore plus isolée. Vous savez, on a souvent l'impression on se retrouve dans la même situation. Lui, il se retrouve dans la même situation, mais tous les autres sont morts. Et il commande aux enfants ou bien aux officiers subalternes de ceux qui avaient été là pendant la Première Guerre mondiale. Ça lui faisait une étrange impression et on le comprend, ça fait une étrange impression à tous ceux qui le voient agir à ce moment-là. D'autant que, chose encore plus extraordinaire, non seulement il revient dans les mêmes fonctions, mais évidemment, il a 25 ans d'expérience en plus, il a gardé sa mémoire terrifiante, et il se sert de cette expérience et de cette mémoire pour organiser quelque chose qui lui rappelle évidemment fortement la situation de 1914, parce qu'une fois de plus, les hommes qui sont sur le devant de la scène, Baldwin d'abord et puis Chamberlain en 1939, ce sont des gens qui ne connaissent pas la guerre, qui détestent la guerre, qui craignent la guerre et qui sont complètement perdus dans une situation de guerre. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est exactement comme 25 ans plus tôt. Et donc lui reste le seul guerrier, le seul qui connaît la guerre, le seul qui ne craint pas la guerre, le seul qui aime la guerre une fois qu'elle est engagée. Et donc on revient très exactement à la situation de 1914 et il va faire la même chose qu'en 1914, c'est-à-dire qu'il va se mettre à se mêler des affaires de tous ses collègues, il va vouloir gérer la guerre alors qu'il n'est que premier lord de l'amirauté, il va se remettre à inventer un tas de choses, il va se remettre... Et alors, Churchill inventeur, vous savez, c'est vraiment le seul professeur Tournesol. Hein. Ça peut être le meilleur, ça peut être le pire. Il va ressortir ses inventions de la Première Guerre, parce qu'il avait aussi non seulement le tank hein, qu'il avait inventé pendant la Première Guerre, il avait aussi inventé les péniches de débarquement à proue rabattable. Ça date de 1917. À l'époque, on débarquait des bateaux de pêche. Hein. Lui avait trouvé que non, c'était pas bon. Et voilà, péniche de débarquement. Il avait même inventé les ports artificiels en 1917. On a encore les plans dans les archives. Hein. Voilà, un port artificiel, ça va servir un quart de siècle après.
Il invente, il fait travailler les ingénieurs.
Il invente, il fait travailler, il n'arrête pas de les harceler. Alors, quelquefois, ça peut être fou. Hein. Par exemple, en 1939, il avait aussi inventé le cultivateur White Rabbit numéro 1. Qu'est-ce que c'était ? C'était une terrifiante machine à creuser des tranchées, parce qu'il pensait qu'on allait retrouver la guerre des tranchées. Donc, il y avait une machine qui creusait des tranchées. Vous savez, c'est Roosevelt qui disait de Churchill, Churchill a 200 idées par jour, dont 4 seulement sont bonnes, mais il ne sait jamais lesquelles. Et évidemment, de bonnes âmes ont répété ça à Churchill, qui a dit « Le président a tort de dire ça parce que lui, il n'en a aucune. » Voilà, bon, ça, c'est Churchill. Mais c'était un inventeur de génie, mais qui avait besoin d'être un petit peu contenu. On verra que c'est un petit peu pareil en ce qui concerne le stratège. En tout cas, c'est un homme qui s'est délégué. Je vous ai dit que pendant la Première Guerre mondiale, il avait quand même fait construire des tanks par les chantiers de l'Amirauté. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va faire construire des avions par un mania de la presse. Et donc, il s'est délégué, il s'est acquis délégué, et ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. Il nommera des fonctions de plus en plus hautes un jeune quadragénaire qui s'appelait Mountbatten. Mountbatten, c'était le fils de son premier lord naval de la Première Guerre mondiale, l'amiral de Battenberg. Donc, il avait ce fils brillant sous ses ordres, Mountbatten, qu'il va nommer successivement chef des opérations combinées, généralissime pour la reconquête de l'Asie du Sud-Est, etc. Il va lui donner des responsabilités énormes. Et il s'avérera, comme toujours, d'ailleurs, que ses choix sont extrêmement judicieux. Donc, c'est un homme qui s'est ordonné, qui s'est organisé, qui s'est inventé, qui s'est délégué, et on va y venir surtout, qui s'est parlé et qui s'est galvanisé.
Alors, il arrive à passer entre les gouttes, si vous me permettez cette expression, puisque la guerre commence mal avec l'affaire de Norvège, et Chamberlain s'y casse les dents, et au fond, Chamberlain apparaît un peu comme l'anti-Churchill. C'est-à-dire que Chamberlain apparaît comme un homme de parti qui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est pas prêt à affronter une telle guerre. On a vu comment il l'a préparée avant 1939, et notamment sur la question de la lucidité à l'égard d'Hitler. Et bien, Churchill, c'est tout le contraire. Et c'est ce qui va le sauver en 1940, puisqu'il faisait partie du gouvernement au moment de l'affaire de Norvège.
Oui, absolument. Alors, en ce qui concerne Chamberlain, Churchill a dit que c'était un bon Lord Maire de Birmingham en année maigre, mais qu'il avait tendance à regarder les affaires du monde par le mauvais bout d'un collecteur municipal. C'est pas tout à fait faux, hein, il faut reconnaître. Mais bon, la campagne de Norvège a été une catastrophe absolue. Je vais écrire un petit livre là-dessus, d'ailleurs, sur la campagne de Norvège, qui s'appelait Churchill contre Hitler. Churchill avait de grosses responsabilités là-dedans. En tant que premier lord de l'amirauté, disons qu'un certain nombre de ses conceptions stratégiques sur lesquelles on reviendra ont été plutôt malheureuses. Mais il faut bien dire aussi que la guerre était organisée par un conclave de ministres qui n'y connaissaient rien, qui n'arrêtaient pas de débattre, et de généraux. Personne n'avait la direction suprême de la guerre, sauf Chamberlain, qui ne prenait aucune décision, qui avait peur de prendre des décisions, et donc et qui disait d'ailleurs il ne faut pas prendre de risques sans être sûr du résultat, ce qui évidemment est une conception du risque un petit peu pusillanime. Et la campagne de Norvège est une catastrophe absolue dans laquelle Churchill a naturellement une responsabilité. Il a ajouté au désordre de la chose sans aucun doute, mais ce que l'on voit pendant les débats des 7 et 8 mai 1940, lorsque le désastre devient évident, lorsque les troupes britanniques doivent embarquer en catastrophe, cette malheureuse campagne où ils ont été écrasés par les Allemands, eh bien, ce qu'on voit surtout, c'est l'état d'impréparation. Et évidemment, on sait que Churchill a été tenu éloigné du gouvernement jusqu'en septembre 1939, et que par conséquent, il ne peut pas être rendu responsable de l'état d'impréparation. Et tout le débat qui va amener à la chute de Chamberlain porte justement sur cette mauvaise organisation, sur cette impréparation, sur l'état lamentable des défenses, l'état lamentable des équipements qui a amené le désastre de Norvège. Et c'est pour cela que Chamberlain va être victime de cette impéritie. et que Churchill en sera en grande partie exonéré, simplement parce qu'on se souviendra davantage de ses avertissements que de ses manœuvres un petit peu inquiétantes au cours de la campagne. Il sera exonéré à la fois d'ailleurs par les conservateurs et par les députés travaillistes, parce qu'eux-mêmes d'ailleurs ne sont pas très très fiers de ce qu'a été leur politique entre les deux guerres, étant donné leur pacifisme très poussé.
Il apparaît finalement comme l'homme de la situation. Il n'y a personne, au fond, pour occuper ce poste.
Voilà, c'est l'homme de guerre. Les Anglais, tout parti confondu, se lançaient dans l'aventure, ils se lançaient dans l'inconnu, ils sautaient dans l'inconnu, et il n'y avait qu'un seul homme en Angleterre qui connaissait le maniement du parachute dans un tel cas, c'était Churchill. Donc il valait mieux l'avoir avec soi, c'était le vieux guerrier. Tout le monde savait qu'en cas de guerre, il n'y avait personne d'autre. Et donc, tout en se méfiant un petit peu de l'impétuosité du personnage, tout le monde se doutait bien qu'à moins de confier la guerre à cet homme-là, eh bien, on allait perdre. On voyait arriver la défaite, parce qu'on était surclassés. On voyait ce que les Allemands avaient fait en Norvège. On voyait ce dont ils étaient capables. Et on se doutait bien que les Anglais n'avaient pas les moyens, tout seuls, avec un homme qui n'avait même pas su gagner la paix, qui visiblement était perdu dans la guerre, c'était Chamberlain. Eh bien, il fallait quelqu'un qui puisse mettre de l'énergie dans tout ça. Et il n'y en avait qu'un, c'était Churchill. Mais évidemment, les gens, et en particulier les travaillistes, le voyaient surtout dans le rôle d'un ministre de la guerre. Comme Premier ministre, il inquiétait. Il inquiétait, mais on n'avait pas le choix. Et donc c'est comme ça que par défaut, je dois dire, il est devenu Premier ministre.
Alors j'en viens tout de suite, François, à ce fameux discours du 18 juin. Et nous avons une mémoire sélective, nous, Français, puisque le 18 juin, c'est tout de même le 18 juin 40. C'est le 125e anniversaire d'une bataille, et non des moindres, puisqu'il s'agit de la bataille de Waterloo. Ce fut, dites-vous, un discours historique.
Oui, il faut bien voir ce que c'est que le 18 juin. Hein, c'est une dizaine de jours, une douzaine de jours après la fin du rembarquement de Dunkerque. Et ça, évidemment, c'est très important parce que l'Angleterre est nue. Le corps expéditionnaire a réussi à rentrer. C'était ce qu'on appelait le miracle de Dunkerque. Ils auraient dû tous être écrasés et prisonniers. Ils se sont rembarqués. Seulement, ils se sont rembarqués sans leurs armes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a pratiquement plus d'artillerie. Il n'y a pratiquement plus de blindés. Il faut en ressortir des musées. L'aviation a été fortement étriée. On a vraiment une toute petite marge. Et donc le pays est pratiquement sans défense. Et c'est un moment où on se demande si on ne va pas tout simplement traiter avec Hitler, qui est prêt à offrir des conditions apparemment favorables. Il se proclame anglophile. D'ailleurs, il l'est, chose curieuse. Et donc, pourvu qu'on lui rende hommage et qu'on le laisse tranquille, il est même prêt à garantir l'intégrité de l'Empire britannique, etc. Donc, il fait de nombreux appels du pied. Et il y a des gens en Angleterre, Lloyd George, Lord Halifax, Butler, quelques autres, qui disent, voilà, il faut être réaliste, il faut s'entendre avec Hitler, puisque, après tout, on va être vaincu pendant qu'il y a encore moyen de faire quelque chose, négocions. Et l'obstacle, c'est Churchill. Churchill ne veut pas. Churchill a compris qui est Hitler et il dit, au milieu du rembarquement de Dunkerque, alors qu'on sait qu'on est dans la catastrophe, il dit, on ne peut pas faire ça, il faut lutter jusqu'au bout. Et ça fait partie du caractère de Churchill. Beaucoup se disent, oui, mais on risque de mourir. Et Churchill dit, oui, et alors ? C'est pas important de mourir. Ce qui compte, c'est la façon de mourir. Ce qui compte, c'est d'avoir une belle mort. Et la plus belle mort, c'est de mourir en combattant. Et donc, peu importe si on meurt, il faut mourir bien. Et ça, évidemment, ça impressionne beaucoup, parce que les gens ont plutôt peur de mourir, mais quand ils se trouvent devant quelqu'un qui vous dit cela, et qui vous dit cela si bien, avec des paroles aussi extraordinaires, nous nous battrons dans les villes, nous nous battrons dans les collines, nous nous battrons, etc., jamais nous ne nous rendrons, eh bien, vous savez, il faut, dans ces cas-là, il faut un certain courage pour avouer qu'on a peur quand on se trouve devant des personnages de cette envergure. Et c'est ce qui nous a manqué en France. On n'avait pas de Churchill. En tout cas, on n'en avait pas un poste suffisamment élevé pour rallier les énergies. Et puis eux, les Anglais, avaient aussi, il faut bien le dire, un très gros fossé anti-char qui les préservait des premiers assauts. Mais voilà, il a rallié le moral, comme il l'avait fait d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, il faisait ça très bien. Et ses discours, même s'il n'en pensait pas moins, même s'il l'a dit d'ailleurs lui-même, vous et moi, il a dit au général Ismay, vous et moi serons morts dans 3 mois. Donc, mais ça ne le gênait pas du tout. Hein, oui, bon, on sera mort, mais on sera mort, on aura une belle mort, on sera mort en combattant. Et pour ça, pour lui, c'est ça l'essentiel. Et comme il n'a pas peur de la mort, évidemment, ça lui donne un courage énorme, un courage considérable. Et ça frappe évidemment énormément l'opinion publique. Ça galvanise des gens qui avaient la même mentalité que nous, que les Français. C'est, bon, si on est vaincu, on est vaincu. Hein, et bon, il faut être réaliste. Eh bien non, lui change entièrement la mentalité de ces gens qui sont assez combatifs, mais il faut éveiller leur combativité. Churchill a magnifiquement éveillé la combativité des Anglais par ce genre de discours. C'est son style grandiloquent de son éloquence, magnifiquement préparé. En temps de paix, ça tombait totalement à plat. C'est un petit peu comme le général de Gaulle, d'ailleurs, ses discours. En temps de paix, ça tombe à plat. Mais en temps de guerre, c'est totalement irremplaçable. C'est irremplaçable. C'est beau, c'est grand. Et ça a un effet hypnotique sur les gens qui l'écoutent.
Alors, je me permets de citer une partie. Nous maintiendrons toujours nos liens de camaraderie avec le peuple français. Les Tchèques, les Polonais, les Hollandais, les Belges ont uni leur cause à la nôtre. Tous ces pays seront libérés. Ce que le général Weygand a appelé la bataille de France vient de s'achever. La bataille d'Angleterre est sur le point de s'engager. De cette bataille dépend le sort de la civilisation chrétienne, la survie de l'Angleterre, de nos institutions et de notre empire. Je m'arrête sur cette idée de civilisation chrétienne. Elle est importante dans l'œuvre. Nous n'avons pas parlé de religion et de Churchill. La religion ne semble pas importante chez lui. En tous les cas, elle ne transparaît pas dans votre biographie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de civilisation chrétienne, elle peut autant s'opposer à la question du nazisme, donc qu'il juge comme areligieuse, et à la question du communisme.
Oui, Churchill est un produit de son époque. Il croyait au progrès continu. Il croyait à la mission civilisatrice de la Grande-Bretagne et de l'Empire. Et il pensait que la religion, il n'était pas croyant, hein, mais il pensait que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer parce que ça avait un effet bénéfique sur l'esprit humain. Ça le rendait moins barbare. Et donc la religion, de ce point de vue-là, était nécessaire. Et bien avant la plupart de ses compatriotes, dans le nazisme, il a reconnu l'ancienne barbarie. Et par conséquent, ça lui donnait une cause, à défendre. Il n'était lui-même que quand il défendait une grande cause. Alors, au début, on l'avait dit la dernière fois, mais un petit peu, sa grande cause au début, c'était dans les années 1910, c'était améliorer les conditions sociales du petit peuple. Alors là, il faisait discours grandiloquent sur l'amélioration des conditions sociales du petit peuple. Quand les guerres sont arrivées, la grande cause, on mettait le social à la poubelle et on se lançait dans la guerre, dans la stratégie, parce que ça, c'était une grande cause pour défendre la civilisation. Et donc, la religion faisait partie, la religion chrétienne faisait partie de cette civilisation à préserver contre le barbarisme athée qui était le nazisme. Ça, il l'a reconnu, beaucoup de gens l'ont reconnu trop tard. L'autre barbarisme athée, c'était le bolchevisme. Il était également totalement contre, mais c'était le danger le plus immédiat contre lequel il fallait lutter. Le danger le plus immédiat, c'était Hitler.
François Kersoy, nous nous retrouvons dans un instant.
La prison est-elle le bon endroit pour 25% de détenus qui présentent de graves troubles psychiatriques? Faut-il développer le nombre de places en prison ou celles en psychiatrie? Canal Académie vous propose un échange autour de cette question qui fait débat sur la récidive des anciens prisonniers, sur les prisons engorgées et sur les hôpitaux trop peu équipés. Mise au point sur la santé mentale des prisonniers, une émission éclairage en compagnie de Marc Chantilini et Jean-Pierre Ollier à écouter dès maintenant sur Canal Académie.
Je reçois François Kersaudy, auteur d'une biographie consacrée à Winston Churchill, une biographie parue aux éditions Talendier. Nous évoquons le discours, l'autre appel du 18 juin, donc de Churchill. Alors, François Kersaudy, je citais, nous parlions de la civilisation chrétienne, je continue le discours, et il écrit « Mais si nous succombons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, tout ce que nous avons connu et aimé, sombrera dans les abîmes d'un nouvel âge, etc. » Les États-Unis sont dans ce discours et Churchill va se battre et encore se battre pour obtenir le soutien des États-Unis.
Voilà, nous sommes à un moment où Churchill a ce à quoi il aspirait, on va dire depuis au moins 50 ans, le pouvoir suprême. Il a le pouvoir suprême, il peut en faire pas tout ce qu'il veut, parce que ce n'est pas un dictateur, mais il a les moyens d'agir. Avant, il n'avait pas les moyens, parce qu'il était une position subordonnée. Même un premier lord de l'amirauté, c'est quand même subordonné à un gouvernement. Ça ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Eh bien là, il peut faire ce qu'il veut. Alors, il y a les discours qu'on entend, il y a les discours qu'on n'entend pas. Le discours qu'on n'entend pas, c'est celui qu'il tient à Roosevelt. Il a compris dès septembre 1939 que l'Angleterre ne s'en sortirait pas si elle n'avait pas l'aide des États-Unis, comme elle l'a eu pendant la Première Guerre mondiale. Souvenez-vous, c'est toujours l'expérience de 25 ans plus tôt qu'il trimballe. Il sait qu'il a besoin de l'industrie, de la puissance des États-Unis, même neutre. Et donc, dès le début, il est en correspondance permanente, écrite, téléphonique, télégraphique, avec le président Roosevelt. Et il sait que le salut viendra de là. Et quand il est au pouvoir, dès l'été de 1940, il commence à harceler le président Roosevelt pour qu'il lui fournisse neutre, président d'une grande démocratie entièrement neutre et isolationniste. Eh bien, Churchill va arriver à ce que cette puissance neutre et isolationniste lui fournisse tous les moyens de survivre. S'il gagne la bataille d'Angleterre, s'il va gagner la bataille de l'Atlantique, c'est en très grande partie à l'aide des États-Unis qu'il le doit. Je vous l'ai dit, en juin 40, après Dunkerque, l'Angleterre est totalement à nu et elle est totalement sans défense. Mais les Allemands n'ont pas attaqué à ce moment-là. Eh bien, entre juillet 1940 et mai 1941, les États-Unis vont fournir une aide colossale à la Grande-Bretagne, tout en restant neutre. Ce qui est évidemment un casus belli. Hitler en est fou furieux. Il dit, on pourrait y voir un casus belli si on voulait, bien entendu, mais il ne voulait pas à l'époque. Eh bien, ça, c'est uniquement à Churchill qu'on le doit. Il faut bien vous dire que Roosevelt et les Américains, premièrement, n'aimait pas les Anglais, on ne se rend pas compte maintenant, mais ça datait de la guerre d'indépendance, on n'aime pas les Anglais, et il méprisait Chamberlain à cause de Munich. Munich a fait un très grand syndrome aux États-Unis, on appelle le syndrome de Munich. Et donc les Américains n'auraient jamais aidé l'Angleterre de Chamberlain. Mais l'Angleterre de Churchill, c'était différent. D'abord parce que Churchill était à moitié américain, et ensuite parce que on savait qu'avec un lutteur comme celui-là, tout ce qu'on allait lui donner ne tomberait pas aux mains de l'ennemi. Et donc, que ce soit des navires, que ce soit des avions, que ce soit des moteurs d'avions, que ce soit tout ce qu'on peut imaginer, des fusils, des munitions, des mitrailleuses, des canons, l'Angleterre a tout reçu des États-Unis. Et même, pour finir, sans le payer, avec la fameuse loi Prébaille, mars 41, eh bien, c'était une assistance totale et gratuite et personnelle, puisqu'elle était donnée pratiquement à Churchill en tant que tel.
Lucide sur Hitler, lucide sur le rôle des États-Unis, le rôle futur des États-Unis. Churchill, comme tout le monde, a ses propres défauts. Vous le présentez comme un homme qui, vous l'avez présenté tout à l'heure, comme un homme qui se perdait dans les détails. Ce n'était pas un grand stratège.
Alors voilà, ça, il faut le dire, Churchill est un stratège atypique, c'est un stratège inquiétant. Il faut être réaliste. Hein. Bon, à l'école militaire de Sandhurst, les officiers de cavalerie n'étaient pas jugés assez intelligents pour être initiés au secret de la haute stratégie. Ça se faisait dans les écoles de guerre et l'école d'état-major, c'était pas pour eux. Et donc, Churchill n'a jamais été initié au secret de la haute stratégie. Mais comme je vous l'ai dit, il a toujours pensé qu'il en avait hérité par consanguinité de son grand ancêtre Marlborough. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et ça va inquiéter plus d'un général quand il se lance avec enthousiasme dans la haute stratégie pendant deux guerres mondiales. Il faut bien vous dire que Churchill ne se considère pas comme tenu de respecter un certain nombre de règles élémentaires de la stratégie. Alors, quelles sont ces règles de base qu'il ignore ou qu'il ne veut pas admettre? Eh bien, par exemple, la concentration des forces. C'est-à-dire qu'il est impulsif, il harcèle ses officiers pour qu'ils passent à l'offensive avant même d'en avoir les moyens. Alors ça, on verra ça en Égypte, par exemple, en 1942. Des gens comme Montgomery, comme Alexander, comme Wavell sont absolument harcelés pour attaquer Rommel alors qu'ils n'en ont pas encore les moyens. Ils n'ont pas la couverture aérienne, ils n'ont pas les canons, ils n'ont pas les blindés, ils n'ont pas les munitions, ils n'ont pas les effectifs suffisants pour passer à l'offensive. Ça fait rien. Lui, il veut mettre immédiatement tous ses joueurs en vitrine et attaquer avant d'être prêt. Ça, c'est très mauvais. Deuxième chose qu'il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, c'est l'interdépendance des théâtres d'opération. C'est-à-dire qu'il est tout à fait prêt à abandonner un théâtre complètement au profit d'un autre pour se lancer. Par exemple, il découvre une île à la pointe de Sumatra qui voudrait envahir toute l'affaire cessante en négligeant la campagne de Birmanie qui se passe au même moment. Ou bien il veut faire prendre l'île de Rhodes au détriment de la campagne d'Italie qui est en train de se dérouler, qui est évidemment beaucoup plus importante. Voilà, troisième point qu'il ignore dans la stratégie, c'est en gros l'adaptation des buts poursuivis aux moyens disponibles. C'est-à-dire qu'il ne sait pas distinguer le possible du souhaitable. Ça, c'est très embêtant aussi. Et ça explique, par exemple, qu'il ait conçu un certain nombre de projets farfelus, pas seulement les Dardanelles, mais aussi cette idée de pénétrer en Baltique. Pendant les deux guerres, d'ailleurs, c'est le plan Catherine qui consistait à pénétrer en Baltique, faire pénétrer une flotte en Baltique sans qu'on sache très bien ce qu'elle y ferait et surtout comment elle pourrait s'imposer avec toutes les mines, les sous-marins, les avions, etc. Donc ça fait partie des plans farfelus. Il y en aura bien d'autres, et en particulier, pendant toute la guerre, Churchill voudra envahir la Norvège, alors qu'il n'en a pas les moyens, et alors que c'est justement là que les Allemands l'attendent. Donc voilà, c'est un stratège inquiétant. Et donc cette négligence des moyens par rapport au but poursuivi, c'est quelque chose qu'il a hérité un petit peu. C'est un grand admirateur de Napoléon. Churchill, il disait « on s'engage et puis on voit ». Voilà, Napoléon avait dit ça, mais c'était Napoléon, c'était un petit peu tôt. Hein. Ça datait un petit peu. Et un des grands admirateurs de Churchill, le général Ismay, a dit quand même ceci un jour où il était vraiment exaspéré. Churchill est le plus grand stratège du monde. Il peut engager une division sur trois théâtres à la fois. Voilà. Quatrième défaut du stratège inquiétant Winston, il a beaucoup de mal à admettre la logistique. Ça, c'est quelque chose dans lequel les Américains sont passés maîtres. Lui, il n'y comprend rien du tout. Parce qu'au cours de ces campagnes du 19e siècle, évidemment, il suffisait de débarquer les hommes avec des fusils, des munitions et un peu de pain. Et puis, ils étaient tout prêts à aller au front. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, c'est tout à fait différent. Une armée, surtout des corps expéditionnaires, puisqu'on faisait la guerre en dehors des îles britanniques, eh bien, ça ne pouvait se maintenir, une armée moderne, qu'avec une quantité innombrable de techniciens, un appareil dont Churchill ne saisit absolument pas la complexité. Il faut des spécialistes des moteurs, des essences, des radars, des chenilles de blindés, du froid, des explosifs, etc., de la météo, des communications, des maladies tropicales, des revêtements de pistes d'envol, hein, de la réfrigération, des langues, des tactiques de l'ennemi, l'interrogatoire des prisonniers, du matériel capturé, de l'intendance, des réparations, du conditionnement, du désensablage, du camouflage, du sabotage, bref, tout ce qu'il fallait pour une armée moderne en campagne. Et bien ça, Churchill ne l'admettait pas et il sommait en permanence ses généraux de couper la queue de l'armée. Il disait d'ailleurs à son maréchal, le chef d'état-major, « Votre armée est comme un pan, elle est tout en queue. » Il distinguait toujours la tête de la queue. Et là, ça, c'était une erreur parce que son chef d'état-major, le maréchal Brooke, c'était pas seulement un splendide stratège, le meilleur stratège de l'époque, c'était aussi un grand ornithologue. Et la réponse a été, « Monsieur le Premier ministre, le paon sans sa queue serait un oiseau complètement déséquilibré. » Oui, un petit peu.
Mais alors, est-ce que c'est cette absence de conception ou cette mauvaise conception de la stratégie qui, peu à peu, va permettre aux États-Unis d'obtenir ou d'avoir ce rôle politique et militaire? On sent Churchill un peu désemparé face à cette puissance qu'il a souhaité de ses voeux, vraiment voir intervenir en Europe et qui peu à peu va prendre la réalité du pouvoir. Et une absence aussi de lucidité à l'égard d'un Staline. Mais là, on est plus dans l'ordre des idées.
Voilà, alors il y a deux choses là-dedans. La première, l'Angleterre a en gros la maîtrise de la stratégie alliée occidentale jusqu'à l'automne de 1942. Après quoi, elle commence à la perdre, tout simplement parce que les États-Unis montent en puissance et qu'ils exigent leur part, puis plus que leur part, et puis la prépondérance de la stratégie. Au départ, ça fonctionne parce que les Anglais sont expérimentés, ils sont en guerre depuis un certain temps, les Américains n'y connaissent rien, leurs généraux sont des généraux de la Première Guerre mondiale, donc ils manquent d'expérience, donc ils se laissent guider par les Anglais. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que Churchill est un stratège inquiétant, mais qu'il est bien entouré. C'est-à-dire que, et un diplomate inquiétant aussi d'ailleurs, mais il sait, il en est conscient. Et donc il a autour de lui des grands professionnels pour la diplomatie, des gens comme Eden, des gens comme Macmillan, des gens comme Attlee, des gens qui connaissent, comme Duff Cooper, qui connaissent leur métier. Et puis pour la stratégie, il a des prodigieux stratèges qui l'encadrent. Le maréchal Brooke, le maréchal de l'air Portal, l'amiral Pound, l'amiral Cunningham, ça, ce sont des gens qui, eux, connaissent très bien la stratégie et qui sont capables de tenir tête à Churchill à chaque fois qu'il bat la campagne. Il faut bien vous dire, et ça, c'est l'erreur que tout le monde fait le plus souvent, Churchill, ça n'est pas un dictateur. Il est autoritaire, il est insupportable, il est tout ce qu'on veut, c'est pas un dictateur. Le dictateur, il ne reconnaît personne au-dessus de lui, sauf Dieu, et ça, c'est pas encombrant. Lui, il reconnaît aussi au-dessus de lui le Parlement et le roi. Et il sait que s'il est désavoué par l'un ou l'autre, il devra démissionner. Et donc, il sait aussi qu'il est impulsif. Et donc, il prend des gens autour de lui. Vous savez, comme les gens du Midi, « Retenez-moi ou je fais un malheur ». Et bien là, c'est pareil. C'est « Retenez-moi si je commence à battre la campagne ». Et ces généraux, ces maréchaux, ces diplomates qui l'entourent, savent faire ça. Ce n'est pas facile, hein, je vous dis tout de suite. Il faut argumenter avec Churchill entre 1h et 5h du matin, parce qu'il a des heures absolument effroyables. Hein, c'est indécent. Il faut résister au sommeil, il faut résister à l'alcool, il faut résister aux cigares, il faut résister à Churchill, hein, qui brandit son cigare comme une rapière, qui tape du pied, qui prend des airs féroces et qui déverse des flots d'éloquence hein, pour défendre des idées totalement farfelues. Et puis, il y a des tirades menaçantes comme celle-ci. Staline a la chance de pouvoir faire fusiller tous ceux qui sont en désaccord avec lui et il a déjà utilisé beaucoup de munitions à cet effet. Voilà, alors les militaires, les ministres deviennent verts, mais ce sont des durs, ils s'accrochent et ça donne des conversations du genre « Non, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas déclarer la guerre au Brésil sur un coup de tête comme ça, sur la base d'informations non vérifiées. Non, Winston, vous ne pouvez pas débarquer en France en 1942, ni même en 1943, parce qu'on n'a pas les moyens. Non, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas faire arrêter le général de Gaulle et le renvoyer enchaîné à Alger la veille du débarquement, etc. etc. » Vous voyez et finalement, comme ce n'est pas un dictateur, comme il est intelligent, comme il sait qu'il est impulsif, et comme il a confiance dans ces gens qui l'entourent, il finit par se rendre à leur raison, à la différence de cet autre stratège amateur mais complètement dépourvu de contradicteur qui préside au même moment aux destinées du Grand Reich millénaire, c'est-à-dire Adolf Hitler. Lui, c'est pas Churchill, c'est pas un dictateur, et il y a une association finalement entre ce génie effervescent et quelques professionnels qui sont moins imaginatifs mais plus pondérés, eh bien c'est cette association mouvementée mais confiante qui va assurer en définitive le salut de la Grande-Bretagne et la gloire impérissable de Winston Churchill. Ceci dit, après 1942, l'Angleterre commence à être le partenaire le plus faible de la coalition alliée et ça, évidemment, ça a une influence sur la stratégie parce qu'à partir de 1943 et surtout de 1944, les Américains étant les plus nombreux, les mieux équipés, ils vont dicter la stratégie qui va échapper aux Britanniques. Et ça, ça va expliquer un certain nombre de choses, depuis la contre-offensive des Ardennes jusqu'à un certain nombre, jusqu'à Berlin inclus, qui vont détourner un petit peu la stratégie de ce qu'elle aurait dû être et de ce qu'elle aurait été si on l'avait laissée, non pas à Churchill, mais en tout cas à sa machine de guerre qui était très perfectionnée à l'époque.
François Kersoli, nous arrivons au terme de cette émission. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il éprouve de cette nouvelle situation, de cette situation de faiblesse de l'Angleterre, une amertume ? Est-ce qu'il sent qu'une nouvelle époque s'ouvre et qu'au fond, cette nouvelle époque sonne à terme la fin d'un empire, l'Empire britannique ?
Oui, absolument. Churchill a des intuitions fulgurantes. Toute sa vie, il a des intuitions fulgurantes. C'est quand même quelqu'un qui, un 13 juin, se plante devant le général de Gaulle et lui dit « l'homme du destin ». C'est quand même étonnant. Il avait prévu ça. Il a prévu énormément de choses. Et il a prévu aussi, à la fin de la guerre, que l'Angleterre allait en sortir ruinée, que l'Empire allait disparaître et qu'il fallait se trouver un nouveau rôle après la guerre, alors qu'on allait être entouré de deux puissances gigantesques qui allaient en sortir, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis. Et quel allait être le rôle ? Les États-Unis qui voulaient décoloniser partout et l'Union soviétique qui voulait absorber une bonne partie de l'Europe. Et donc, ça l'inquiétait énormément. Il était profondément déprimé à la fin de la guerre. Personne ne pouvait comprendre pourquoi. Lui voyait quand même assez loin.
Eh bien, merci beaucoup, François Kersoli, d'avoir évoqué Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je renvoie nos auditeurs également aux autres émissions que nous avons enregistrées ensemble. Je rappelle les références de votre ouvrage, Winston Churchill, paru aux éditions Talendier, chez le même éditeur. Les textes de Churchill, Mes jeunes années, un premier ouvrage, Réflexions et aventures, et enfin une sélection des discours de guerre. Et je crois, François, que vous travaillez à une réédition des mémoires. Je veux citer également Du sang, de la sueur et des larmes, discours de Winston Churchill, 13 mai et 18 juin 1940, suivi de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, une édition bilingue parue chez Point. Merci beaucoup, merci François, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.